J'aimerais commencer par vous faire un aveu. Tatsin, heureusement que vous êtes assis. Hein. Oui, terrible. Voilà, j'ai mis des années à me décider à vous le faire, mais je vais vous le faire quand même. Donc j'ai un aveu à vous faire. Je n'aime pas, et voire même je déteste, la poule au riz. C'est terrible, hein, je sais. Pourquoi je vous dis ça? Ben parce que ça arrive à ma maman, pourtant même ma mère, je pense, hein, quoique, de faire de la poule au riz le dimanche, certains dimanches. Et alors, quand elle me disait « Maman, qu'est-ce qu'on mange ?» Elle me disait « On va manger de la poule au riz », je me disais que ça allait être un très long dimanche. Parce que comme j'aimais pas ça, je ne le mangeais pas, ça refroidissait mon père. Dans ses vertus éducatives, il disait « Tant que tu ne finis pas ton assiette, tu restes à table ». Donc on mangeait vers midi, midi. Et moi, à 5 heures de l'après-midi, j'étais toujours dans la cuisine, devant mon assiette de poule au riz. Heureusement que mes deux sœurs, à l'époque, passaient de temps en temps dans la cuisine et enfournaient des grandes fourchettes de poule au riz pour m'aider. Mais la poule au riz, c'était vraiment c'était un calvaire pour moi. En fait, à la réflexion, la seule façon dont j'aurais pu apprécier ce plat, c'est qu'on me greffe les papilles gustatives de quelqu'un qui aime la poule au riz. Alors j'aurais pris un pied extraordinaire à manger ce plat. Il n'y aura plus de douleur, plus de difficulté, il n'y aurait plus que du plaisir. Eh bien, figurez-vous que quand vous êtes devenu chrétien, c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a fait de vous des gens qui aiment la poule au riz. Vous avez, plus sérieusement, hein, j'ai dit qu'on avait parlé de nouveau au cœur, vous avez subi une transplantation cardiaque. On vous a greffé un nouveau cœur. Un nouveau cœur qui génère toute une série de nouveaux désirs liés à Dieu que vous n'aviez pas avant d'avoir ce nouveau cœur. Ce nouveau cœur aspire à ce que Dieu aspire. Il aspire à le connaître intimement. Il aspire à obéir à sa parole. Il aspire à ne trouver son bonheur, sa satiété, son plaisir qu'en lui. C'est pour ça que Dieu vous a donné, m'a donné, ce nouveau cœur. En fait, grâce à ce nouveau cœur, la volonté de Dieu ne s'exprime plus seulement par le devoir faire ce qui est juste, ce qu'il demande, mais aussi par l'envie, par le désir de le faire. Grâce à la révolution intérieure qui s'est opérée en nous, l'obéissance à Dieu n'est plus seulement un devoir moral, hein, encore une fois, faire ce qui est juste, mais également le bonheur le plus authentique et le plus profond de notre nouveau cœur. En disant ça, je vous regarde, vous êtes en train de vous dire, moi quand je lis des commandements, il y a un peu une sorte de joie intense qui se saisit de moi, et pourtant, on va prendre un premier texte que je prends dans l'Ancien Testament. Pour faire le lien, hein, qu'il y a des promesses de l'Ancien Testament qui se sont réalisées dans le Nouveau et par extension dans notre vie à nous. Il y a des promesses de l'Ancien Testament qui étaient destinées à nous. Donc ce texte d'Ézéchiel, qui était un prophète de l'Ancien Testament, voilà ce qu'il dit, et c'est Dieu qui parle à travers lui. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles ou mes commandements. » Alors, en hébreu, « règles », c'est très mal traduit. Hein. C'est plutôt la notion de parole de vie, des paroles qui donnent la vie et qui maintiennent la vie et qui transmettent la vie. C'est une pensée assez scolastique de se dire que tout ce que Dieu demande, ce sont des règles. Alors qu'on est plus dans l'articulation, tu prends un chemin de vie ou un chemin de mort. Cette prophétie, aujourd'hui, elle est réalisée. Depuis la Pentecôte, la première Pentecôte à Jérusalem, au temps des apôtres, et par extension aujourd'hui, cette prophétie est réalisée en nous, à ceux qui ont rencontré Dieu, qui l'ont accueilli dans leur vie. Je rappelle que nous venons en ce monde, quand nous naissons, bébés, avec une disposition naturelle opposée à Dieu. C'est bien quand on regarde un bébé dans les bras de sa mère, à la maternité, on se dit « Ah, quel être merveilleux !» C'est vrai, hein ? Mais c'est aussi un être qui est entaché par le péché et donc il est opposé à Dieu. Et en grandissant, on va vite se rendre compte qu'il est opposé à Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle le cœur de pierre. C'est un cœur qui a effectivement toutes les caractéristiques de la pierre, de la matière. Il est froid, il est insoumis, il est dur et il est inerte. Autrement dit, il ne produit pas la vie. Il est dominé par une intelligence, forcément, mais qui n'en est pas vraiment une, car elle est touchée par la folie, le fait de ne pas vouloir connaître Dieu, par l'irrésolution, l'incapacité de tenir des engagements dans la durée, et aussi est soumis à la convoitise de désirer ce que Dieu ne veut pas que l'on désire. Et ce cœur de pierre nous rend étrangers à la vie de Dieu. On va prendre un autre texte, un verset, simple verset, dans le Nouveau Testament, que je tire de la lettre de Paul à l'église d'Éphèse, en Turquie actuelle. Ils ont l'intelligence, dont Paul parle de ceux qui n'ont pas encore rencontré Dieu, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause, et il donne la cause, hein, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ce que Paul nous dit, c'est que ceux qui possèdent un tel cœur, et nous étions dans le cas, ont des pensées, des désirs et des buts qui ne sont absolument pas en phase avec ceux de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'apôtre parle d'être étranger à la vie en Dieu. Ces personnes ne connaissent pas Dieu car elles ne possèdent pas son esprit, elles ne possèdent pas ce nouveau cœur, et elles sont donc empêchées de le connaître à cause de ce cœur de pierre qui ne reçoit pas les choses de Dieu. Alors, petite précision quand même, hein. Je rappelle que le mot « cœur » dans la pensée biblique n'a rien à voir avec une vision sentimentale de l'être humain. Ça n'a rien à voir avec les cœurs qu'on pouvait écrire sur certaines feuilles de cours quand le prof était tellement passionnant qu'on avait vraiment envie d'être ailleurs et qu'on pensait à s'adulciner avec « e » ou s'adulciner sans « e ». Moi, je n'étais pas comme ça. Moi, je mettais des noms de groupes de vie métal sur ma farte, pas des petits cœurs, mais bon, beaucoup, je voyais des filles, beaucoup de petits cœurs. Ça n'a rien à voir avec ce cœur-là. Hein. Bibliquement, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça n'a aucune référence, ça n'a rien à voir avec un ado boutonneux quelconque. Le cœur, dans la pensée biblique, est le siège de tout ce qui constitue l'homme. Sentiment, émotion, ok, mais aussi intelligence, volonté, résolution, sagesse. Plus encore, dans la pensée biblique, le cœur, ça c'est important de comprendre, hein, est l'endroit où l'on fait ses choix motivés par ses désirs, où on choisit ce qu'il est bien de désirer ou non. Ce qui signifie que ce que dépeint ici Paul est bien pire que, par exemple, se dire neutre par rapport aux choses de Dieu. On pourrait le comprendre comme ça. Hein. On peut penser que Paul ici nous dit qu'il y a des gens pour qui Dieu, ça n'a pas d'importance. Bon, nos amis athées, ils ont un peu réfléchi, paraît-il. Ben, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas que Dieu existe. Voilà. Ils disent on ne peut pas le prouver, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et les agnostiques, beaucoup se disent agnostiques, c'est-à-dire que s'il existe, il est inconnaissable. Donc moi, je ne passe pas mon temps à me casser la tête avec ça. Enfin, c'est résumé. Hein. Ce n'est pas spécialement la définition philosophique de l'agnosticisme, nous sommes d'accord. Mais là, on est à un stade plus loin quand même. Parce que neutre, personne ne l'est. Les hommes se pensent neutres, mais du côté de Dieu, à ses yeux à lui, aucun homme ne l'est. Je l'ai dit, c'est très à la mode de se dire neutre par rapport aux choses d'en haut aujourd'hui, mais le problème ne se situe pas dans le choix de l'homme de connaître ou pas Dieu, mais dans le fait que Dieu connaît chaque homme et son cœur et l'état de son cœur. Ce cœur de pierre qui ne désire rien de ce que Dieu désire. Dans la Bible, le cœur est donc le centre de toutes les parties qui constituent l'existence humaine. Ce qui veut dire qu'aucun homme n'est neutre vis-à-vis de Dieu parce que notre nature propre vit au rythme de ce que Paul appelle la révolte contre Dieu. Et c'est ce qu'il dit en Romains 8. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Naturellement, de par notre nature humaine, notre réaction à l'égard de Dieu et à ce qu'il dit et demande est le dégoût, le rejet, la colère et la rébellion. Alors vous allez me dire, ce n'est pas une peinture très objective, très avenante de la vision qu'ont beaucoup d'hommes de Dieu, mais c'est ça. Beaucoup vous diront, moi ça ne m'intéresse pas, j'ai autre chose à faire. Oui, mais Paul dira en Romains, rien. Quand on dit que Dieu est inconnaissable, regardez la création. Alors, pendant des siècles, et même jusqu'au, je dirais, le 18e, 19, voire le 19e, de grands scientifiques ont découvert des choses extraordinaires sur notre univers et croyaient en Dieu. Pour eux, c'était une découverte des mécanismes, certains mécanismes qui régissaient notre vie ici-bas, hein, dans le cosmos. Ça ne les empêchait pas de croire. Aujourd'hui, c'est devenu un obstacle, d'après beaucoup, à la croyance en un Dieu créateur. Je ne vais pas vous faire un cours d'astrophysique, rassurez-vous. Tout ce que ces textes dépeignent, donc, c'est l'état de l'homme avant sa rencontre avec Dieu. C'est l'état de son cœur. Et en réfléchissant à ça, on comprend pourquoi Dieu, puisque l'homme est incapable par nature de se tourner vers Dieu, on comprend pourquoi à cause de son cœur de pierre, pourquoi Dieu a dû lui donner un nouveau cœur, un cœur qui le connaisse. Parce que ce cœur, contrairement à l'autre, ce cœur-là, il est en permanence tourné vers Dieu. On n'en a peut-être pas l'impression, mais quoi que vous en pensiez, quoi que vous ressentiez, votre cœur nouveau est en permanence tourné vers Dieu. Il répond, ce cœur-là, à Dieu et à ses exigences, et il désire ce que Dieu désire. Et ce cœur, seul Dieu peut le donner. Alors, ce qui nous complexifie la vie, je vais revenir à mes deux chemins, c'est que notre cœur nouveau, il cohabite avec notre ancien cœur. Notre cœur de chair, celui que Dieu nous a donné, cohabite avec notre cœur de pierre. Donc, et je veux être clair, et même si ça va peut-être un peu vous perturber, je crois que, enfin non, vous allez entendre, hein, vous me direz après, mais je pense que ça va correspondre un peu à votre expérience. Nous aurons beau grandir avec le Christ, en Christ, avec Dieu. Moi, c'est ce que je me souhaite, très égoïstement, avant de vous souhaiter à vous. Hein. Mais cette tendance de notre cœur de pierre à résister à Dieu, il ne peut pas s'améliorer ni s'amender. Ce qui signifie que le jour où notre cœur de pierre aimera Dieu, ce jour-là ne viendra jamais. Notre ancienne nature, notre nature propre, notre nature sans Dieu, il ne faut pas espérer une transformation de cette nature-là. Elle ne changera jamais, celle-là. Elle sera toujours opposée à Dieu. Même dans la vie du chrétien, hein, pourquoi vous croyez que vous n'êtes pas comme Dieu voudrait que vous soyez. Et même comme vous, parfois devant Dieu, vous dites « Moi, j'aimerais tellement être comme ça, Seigneur. » Ben, ça, c'est l'expression de votre cœur nouveau. Mais l'autre, il se bat contre, en fait. Donc, à chaque seconde qui passe, c'est très encourageant, ça. Ma nature propre, ce que la Bible appelle dans le texte grec la chair, ma nature propre méprise Dieu. Elle déteste son règne et elle aspire à faire ce que Dieu interdit. Le plus tordu, parce que nous pouvons l'être, bien entendu, c'est que cette ancienne nature va parfois obéir à Dieu, parfois, quand elle y trouve un intérêt. Prenez les pharisiens, en fait. Cette symptomatique, c'est le seul groupe d'hommes, donc les religieux de l'époque de Jésus, envers qui Jésus va avoir quand même... Bon, Jésus, il a parfois des paroles quand même qui claquent, hein, qui, moi, me dit oh, « oui, 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 je suis mal ». Mais vis-à-vis des parisiens aussi, d'ailleurs... Lapsus révélateur. Vis-à-vis des pharisiens, il est parfois excessivement dur. Mais il y a un truc qui me frappe, c'est qu'il ne reproche jamais aux pharisiens de ne pas croire en Dieu, parce que le pire, c'est qu'ils croient en Dieu. Mais ils sont l'expression même qu'on peut se laisser, on peut aller dans l'obéissance à Dieu, alimenté par son cœur de pierre. Jusqu'au jour de notre mort, nous serons effrayés, du moins je le souhaite, et souvent malheureux, en tout cas c'est mon cas, de ce que nous sommes capables de penser et de faire. Parfois. Et si vous êtes malheureux et effrayé de vous-même en certains moments, bon, évitez que ça soit trop souvent quand même, mais moi ça me rassure. Les gens qui sont mal par rapport à ce qu'ils vivent par rapport à Dieu, ils sont mal. Ils n'ont pas toujours la réponse à comment je peux me sortir de dans le bourbier, je me suis foutu, mais en attendant, ils sont vraiment mal par rapport à Dieu. Ceux-là, ils ne m'inquiètent pas trop, même s'ils trinquent. Hein. Parce que c'est la preuve, cette culpabilité positive qui repousse vers Dieu, c'est la preuve que Dieu est bien en eux. Ceux qui s'en tapent complètement, ceux-là, ils m'inquiètent beaucoup plus. Dwight Edward, un pasteur très connu, hein, que vous connaissez, un pasteur américain, dit qu'à chaque fois qu'il se surprend à avoir des pensées en dehors de la pensée de Dieu, ça lui arrive comme ça m'arrive, comme ça vous arrive, il faut encore savoir les repérer, il essaye, dit-il, de se rappeler trois choses. On va voir ces trois choses. La suivante, merci. Ce n'est pas le vrai moi qui produit de telles pensées, mais ma nature. Et pour ma nature, elles n'ont rien de surprenant. Il faut savoir repérer que c'est ma nature sans Dieu qui produit cette pensée. Il faut la combattre forcément, mais en attendant, elles n'ont rien de surprenant parce que ma nature ne peut rien produire d'autre que ça. Il faut arrêter d'être surpris par ça. La pensée elle-même n'est pas un péché. Vous ne pouvez... Voilà, je continue. C'est ma réaction à ce qu'elle propose qui peut l'être. Donc, suivre cette pensée jusqu'au bout. J'ai envie de tromper ma femme, finalement, je trompe ma femme. Le fait d'avoir envie de prendre... Bon, c'est problématique, mais vous êtes responsable de ne pas permettre à votre âme d'accueillir avec bienveillance cette pensée. J'ai souligné responsable parce que parfois, on culpabilise parce que la pensée est là. Vous n'avez aucune capacité de bloquer la pensée avant qu'elle n'arrive à votre esprit. Vous ne pouvez pas aller dans le plus profond de votre cœur, empêcher cette pensée d'émerger. Elle émerge de quelque part, hein. Vos blessures, votre image défigurée, enfin peu importe. Psychologie, un refoulement quelconque, elle vient de quelque part, cette pensée. Mais vous n'avez aucune capacité de la bloquer avant qu'elle n'émerge dans votre esprit. Votre responsabilité se situe au moment où elle arrive, une fois qu'elle est là. Et la responsabilité, simplement de ne pas accueillir cette pensée, de ne pas imaginer autour, de ne pas en faire un scénario qui va finir, dans certains cas en tout cas, par devenir un acte entre « oh, je foutrais bien ma main dans sa tronche » et le fait de le faire. Pourquoi je prends cet exemple ? C'est bizarre. Ouais. C'est pour pas se tromper, c'est pas pour pas, ne pas se tromper d'analyse et de diagnostic, surtout, hein, que je dis ça. Et en fait, finalement, la troisième... Il y a dans mon être intérieur, cœur nouveau, hein, dans la Bible, on parle d'être intérieur, de cœur nouveau, ce sont des synonymes. Hein, donc n'embrouillez pas tout, en fait c'est simple, hein, enfin, simple. Il y a dans mon être intérieur, donc dans mon cœur nouveau, un désir beaucoup plus, ça c'est important hein, de comprendre ça, un désir beaucoup plus fort que les pensées coupables ou la tentation présente, même si sur le moment ce n'est pas ce que je ressens. Il y a toujours en moi un ensemble surnaturel d'inclinaisons qui font que je veux marcher sous la direction de Dieu. En fait, cette nouvelle disposition est en nous grâce à la promesse que fait Dieu au travers de la nouvelle alliance en Jésus. Je vous cite ce passage. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc tout cela nous amène à affirmer une vérité importante de la vie spirituelle qu'on oublie ou qu'on ne connaît pas peut-être même. Cette vérité importante est celle-ci. Dieu n'a pas modifié ses commandements pour qu'ils s'adaptent à notre cœur de pierre. Il nous a donné un cœur nouveau pour que celui-ci s'adapte à ses commandements, à un cœur capable de répondre à ce qu'il demande. Donc c'est clair, si on n'a pas ce cœur, et c'est moi avant d'être chrétien, je n'avais pas ce cœur, mais... Imaginez même que j'ai eu envie de connaître Dieu et j'aurais peut-être été dans quelque religion que ce soit, tenté par mes propres moyens d'adorer Dieu, de le servir, d'obéir à ses commandements. Ça s'appelle la religion, mais c'est voué à l'échec. C'est toute la Bible qui enseigne ça, c'est pas moi. Alors ce verset 3 du 3e chapitre de 2 Corinthiens est très intéressant. Il est clair que vous êtes une lettre, c'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe, hein. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, hein, où on gravait les choses, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Le texte grec de ce passage fait référence à une gravure permanente. Autrement dit, Dieu a gravé dans ce nouveau cœur, il a gravé son sceau, qui est celui de l'Esprit. Et le terme grec employé ici en termes de gravure fait référence à une gravure permanente, comme un tatouage permanent, qu'on ne peut pas enlever. Ça, c'est une promesse fabuleuse, ça, quand même. Quoi que vous fassiez, disons le pire, on va dire ça comme ça, si votre cœur nouveau porte la gravure, la trace, le sceau du Saint-Esprit, rien ni personne ne peut le retirer. Parce que notre nouvelle disposition est inséparable de la présence du Saint-Esprit. Je vais dire autrement, si l'Esprit Saint nous quittait, notre nouvelle disposition disparaîtrait instantanément. Notre cœur nouveau serait parti avec. On comprend pourquoi le grand roi David, dans le psaume 51, où il demande à Dieu de purifier son cœur après avoir fait tuer un homme pour lui piquer sa femme, ce qui n'est quand même pas bien, pourquoi il crie « Ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Déjà qu'il s'est planté avec l'Esprit, il a déjà obéi à Dieu en ayant l'Esprit, il dit, mais si tu me le retires, mais... Mais il a cette demande juste après, crée en moi un cœur nouveau. Je pense qu'on ne remercie pas assez Dieu par rapport aux vies que nous vivons devant lui, sur le fait qu'on ne peut pas, qu'il ne nous retirera jamais son Saint-Esprit, quoi qu'il arrive. Donc la présence de l'Esprit implique une chose importante. Et cette chose, c'est que plus profond que notre péché, donc les choses que l'on fait contre la pensée de Dieu, plus profond que notre peine, plus profond que nos peurs, plus profond que nos blessures, que notre culpabilité, que l'image déformée que nous avons souvent de nous-mêmes, Il y a en nous quelque chose de net, de pur et de pieux qui aspire en permanence à connaître Dieu et à refléter sa personne. Tout ce que vous pouvez faire de mal, ça existe, hein, c'est vrai. Mais tout ce que Dieu a placé en vous, c'est vrai aussi. Hein. Ça existe aussi. Hein. Ça se voit un peu moins souvent, sans doute, mais ce n'est pas pour ça que ça doit continuer à être comme ça. Hein. Le Seigneur a fait de nous des gens qui aiment la poule au riz. Et c'est un miracle, hein. Vous avez vu à quoi ça ressemble? Nous pouvons faire donc sa volonté, non seulement parce que c'est bon pour nous, ça, il faudrait peut-être commencer à comprendre que c'est bon pour nous, hein, mais aussi parce que cela flatte les papilles gustatives de notre nouvelle nature. Vous comprenez? Donc le désir de faire la volonté de Dieu n'est pas un penchant que nous devons susciter, sur lequel nous devons travailler, mais une envie à laquelle nous devons nous fier et apprendre à suivre. Nous l'avons peut-être oublié, ou peut-être nous ne nous l'a-t-on jamais dit, hein, c'est possible, mais nous avons reçu ces nouvelles inclinaisons à faire la volonté de Dieu avant même que la lumière de la Bible ne nous fasse connaître le moindre aspect de la volonté divine. Hein. Moi, ça m'a sauvé ma tête à un certain moment, pour ceux qui étaient avec moi dans la première église dont on fait partie. Moi, je connaissais quasi rien à la Bible. Mais chaque fois que ce fameux pasteur, olé olé, venait prêcher dans notre église, je me disais, ça, c'est des conneries, ça. Ce gars est en train d'enseigner des âneries. Je ne connaissais pas un mot de la Bible, quasi. Hein. Mais je savais. Pourquoi est-ce que je savais? Parce que ces nouvelles dispositions étaient, comme chez vous, hein, étaient déjà placées en moi, étaient déjà agissantes en moi. Donc tout chrétien qui vient à la vie spirituelle, il vient avec une nature dans laquelle est inscrit de façon surnaturelle l'ensemble des enseignements et des commandements du Christ, au point, comme le dit Paul, que nous avons la pensée du Christ. C'est Paul qui le dit. Hein. Mais l'homme naturel, donc l'homme sans Dieu, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Avant même d'avoir ouvert un texte de l'Écriture, d'avoir commencé à réfléchir et étudier le texte, ce que Dieu dit et est, vous aviez déjà tout le conseil de Dieu en vous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était là. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Jésus qui dit ça en Jean 15, le Consolateur qu'il annonce à ses disciples. Lui viendra et il prendra ce qui est à moi et vous l'enseignera. Eh bien, ce tout, il était déjà là. Bon, après, il faut potasser un peu, les gars, hein, forcément. Hein. Puis sinon, les pasteurs ne seraient pas trop nécessaires s'il ne fallait rien apprendre. Hein. Mais ce qui veut dire que tout commandement que nous rencontrons quand nous lisons les textes est un puissant rappel, pas un appel, un rappel à faire ce que nous désirons déjà. Ça nous rappelle ce que nous désirons déjà. Parce que le texte, par l'illumination de l'esprit, précise à notre esprit, à nous, ce que nous voulons déjà accomplir dans notre cœur régénéré, dans ce nouveau cœur. En pratique, on va laisser de l'être, hein, ça signifie que vous ne trouverez pas un seul commandement de Dieu dans la Bible pour lequel il ne vous a pas déjà donné le désir d'obéir. C'est pour ça que Paul dit aux Philippiens, dans sa lettre à l'église de Philippe, c'est pour ça qu'il dit, c'est lui, le Saint-Esprit, qui produit en vous le vouloir et le faire. Il a déjà mis en vous le désir d'obéir à ce qui vous le demande. Ça veut dire qu'il faut arrêter de demander, enfin il faut arrêter, vous continuez si vous voulez, hein, moi je n'ai pas à remplacer l'Esprit Saint, mais je pense à mon avis qu'il faut donc arrêter de demander à Dieu le désir de faire ce qu'il nous demande, parce que ce désir est déjà en nous. Mais plutôt le remercier de nous avoir placé ce désir en nous et lui demander de nous aider à nous l'approprier ce désir, parce qu'il est là. C'est comme, il y a des chrétiens qui demandent l'Esprit Saint, ils n'ont pas besoin de le demander, il est là. C'est comme l'Esprit Saint, c'est un système de lavabo qui se remplit par le bas. Ce n'est pas une averse qui nous tombe dessus, c'est un truc qui se remplit. Plénitude de l'esprit, elle part de nous. Nous devons donc apprendre à nous approprier notre nouvelle nature, devenir ce que Dieu a déjà fait de nous. Mais c'est déjà fait. Hein. C'est pour ça qu'on va retrouver cette tension parfois, de la sanctification, l'appel à la sanctification. Vous devez vous sanctifier, donc vous devez laisser l'Esprit de Dieu de plus en plus prendre de place en vous. Mais de toute façon, vous l'êtes déjà sanctifié. C'est déjà accompli. Parce que quand on sera devant Jésus, ça va faire et on sera parfait. Voilà. Mais on doit le devenir. On doit devenir ce que Dieu a déjà fait de nous. Je sais pas, ça s'appelle une tension. Moi, je fais ce que je peux, les cocos. Hein, voilà. Mais tout est déjà là. Et ça, je reprends ma citation du début, tout est déjà là, donc il faut apprendre à faire fonctionner notre foi par rapport à ça. Alors, vous me direz sans doute que les passions qui luttent dans nos membres sont bien terribles, pour reprendre l'expression de Jacques, et que toutes ces choses font la guerre à notre âme. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que l'on ne peut nourrir qu'une seule bouche à la fois. Moi, j'en ai qu'une. Hein. Si j'enfourne quelque chose, je ne peux pas enfourner. Quoique, deux fourchettes, c'est peut-être possible, non, trois. Non, en principe, nous avons une bouche, on ne peut nourrir qu'une bouche à la fois. Donc, soit vous nourrissez votre ancienne nature, qui est toujours là, et qui ne veut pas connaître Dieu, qui s'oppose à Dieu, soit on gave la nouvelle, dont la seule façon de surmonter nos passions inférieures consiste à nous gaver des supérieures. Alors, notre ami Oswald Chambers, ça fait longtemps que je n'ai plus rien dit de lui, hein, donc je ne l'ai plus cité, rappelle que la nature humaine, si elle est saine, réclame sa douce excitation. Si elle ne l'obtient pas par les bons moyens, elle le recherche au travers des mauvais. C'est pour ça qu'il a dit « Dieu n'a pas conçu des stoïques froids, mais des saints passionnés ». Alors passionné, ça ne veut pas dire jeter la chaise à la tête des gens, et la Bible. Simplement que ce désir de Dieu et ce feu intérieur est tout à fait là. Alors chez certains d'entre nous, c'est une petite braise qui fume. Chez d'autres, c'est un grand machin. Parfois, ça diminue, parfois, ça augmente. C'est en rapport avec notre conception des choses, avec notre ressenti, avec nos priorités de vie, avec là où je mets de l'intensité, là où j'en mets pas, si je me laisse submerger par certaines choses ou pas, tout ça, ça joue, quoi. Parce que Dieu n'a pas fait de nous des esclaves non plus. Hein. Mais c'est la raison pour laquelle, quand la tentation vient, pardon, il faut se demander non pas qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que je veux vraiment. À ce moment-là, il faut essayer d'aller au plus profond de soi-même. Parce que ce que nous voulons vraiment, c'est Dieu en fait, hein, mais on n'est pas conscient. La tentation, mes amis, c'est un truc que j'ai compris, je pense, il n'y a pas très longtemps en fait. La tentation, dont notre ancienne nature, hein, elle reste toujours, elle a le désir de rester à la surface des choses. Elle n'aime pas la profondeur, elle reste en surface. Elle nous propose une glace à une boule, une, hein, pas deux ni trois, une, alors que nous mourons de faim. Tu meurs de faim, tiens. Mange une glace à une boule. Quel mère ou quel père donnerait ça à son fils ou sa fille, quoi. T'as vraiment faim, chaud ? Ben, tiens, une glace à une boule. Eh bien, la tentation, l'ancienne nature, c'est tout ce qu'elle vous proposera. Mais ça ne vous nourrira pas. Hein. Vous continuerez à mourir de faim. Vous aurez l'illusion que vous remplissez de quelque chose, que vous êtes bien dans votre vie. Mais en fait, ça n'ira pas du tout. Hein. Je donne un exemple pratique. Hein. Il m'arrive parfois de croiser des personnes dans la rue ou dans un magasin quelconque. Et je me surprends, et je cite sur le terme « surprendre », je me surprends tout à coup à demander à Dieu de bénir ces personnes que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues. Je demande à Dieu intérieurement de bénir ces personnes. Comment ça se fait que ça arrive, puisque quelque part ça ne passe même pas par mon cerveau? Mais c'est simplement parce que Dieu, comme vous, hein, Dieu a placé son amour en moi. Parfois, l'Esprit Saint me fait monter des trucs, pop, voilà. Pourquoi? Parce que c'est là. Et ça m'a permis de comprendre que je dois arrêter de demander à Dieu de changer mon cœur. Qui d'entre vous n'a jamais demandé ça, change mon cœur? Mais il faut arrêter de demander ça, parce que c'est déjà fait. On demande en permanence à Dieu de réaliser quelque chose qu'il a déjà réalisé pour nous. Parce qu'il a déjà réalisé cette transformation par son esprit. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est nous approprier cette réalité. Je vais terminer. Ce cœur nouveau que Dieu nous a donné est brûlant d'amour pour lui. Si, si, je vous assure. Même si vous êtes un introverti, insipide, incolore, inodore. Il paraît qu'il faut tout pour faire un monde. Moi, je ne suis pas sûr. Hein, mais bon. Ce cœur désire ce que Dieu désire. C'est un cœur qui aime Dieu et les autres, hein, parce que c'est lié, hein, selon cette très ancienne promesse du Deutéronome. C'est fait exprès si j'ai été chercher celle-là. L'Éternel ton Dieu circoncisera ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, afin de vivre. Rappelez-vous ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne. Ça fait une résonance à ça. Vous savez, les pharisiens et même les gens loin de Dieu, enfin, ceux qui étaient répertoriés à l'époque de Jésus comme des gens loin de Dieu, les prostituées, enfin voilà. Certains de ces gens avaient des familles et ils aimaient leur famille. Leurs parents, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, enfin, etc. Vous avez le modèle. Hein. Et pourtant, Jésus, à un moment, dit, mais si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Enfin, ce que Jésus dit, c'est, sans ce cœur nouveau que Dieu veut vous donner, vous serez incapable d'aimer quelqu'un d'autre à part ceux qui vous aiment déjà. Et puis Jésus va commencer à dire, tu dois aimer ton ennemi. Et tout le monde, c'est pas possible. À partir de nous, ça c'est clair, je confirme, hein, c'est impossible. Mais avec le cœur nouveau, à partir de ce cœur-là, ça c'est possible. Hein. Bien sûr que c'est possible. Mes amis, aussi humiliant que ça puisse paraître, aucun d'entre nous n'est venu au monde avec un véritable amour pour Dieu. Cet amour est la passion permanente et inébranlable du Saint-Esprit en nous. La troisième personne de la Trinité est en nous, et c'est parce qu'elle est en nous que notre amour de Dieu est aussi fort, est une réalité. Parce que l'Esprit Saint, il ne peut pas faire autrement qu'aimer. Il ne peut pas faire autrement. C'est sa nature profonde. Ce qui signifie que pour nous, il nous est impossible d'aimer Dieu sans aide. Sans aide. Si on n'est pas aidé, c'est impossible. Ou alors on va transformer, on va essayer de le faire en faisant des machins ou des trucs religieux. En essayant de s'instaurer une discipline de fer. Certaines époques, en flagellant. Quelle chance que je suis protestant. Hein. Pff, moi, je suis la peau si fragile. Non, mais c'est vrai. J'ai du mal à cicatriser, moi. Mais tous ces gens, moi, parfois, quand je relis certains vieux textes du Moyen-Âge entre ou du bas Moyen-Âge, je me dis, mais ces gens recherchaient vraiment Dieu avec tout leur cœur, mais les réponses qu'ils donnaient à cette recherche. Ils comptaient vivre selon les principes de Dieu, selon l'amour de Dieu, par leur propre force. Et ça, ce n'est pas possible, hein, mes amis. Pourquoi, encore une fois, croyez-vous que Dieu nous a donné son esprit? Parce que sans son esprit, c'est impossible. La crainte de Dieu, hein, vous savez, connaissez quand on parle de crainte de Dieu, on aime plus ce terme-là, ouais, mais crainte. À une époque où les textes ont été écrits, et encore, il y a encore 50 ans d'ici, on parlait dans les familles de la crainte du Père. C'est pas pour ça que la crainte, il ne fallait pas voir des coups, pas spécialement. Pas spécialement. Parfois oui, mais pas seulement. Moi, je me rappelle que quand j'étais prêt à faire une bêtise à l'adolescence, moi, j'imaginais la tête de mon père. Ben, pas des grosses bêtises, hein, brosser un coup ou l'autre, voilà, pas des trucs mortels, quoique. Eh bien, ça ne marchait pas tout le temps, mais de temps en temps, quand j'étais prêt, ils vont brosser, ouais, c'est vrai, on va brosser. Et puis, je voyais la tête de mon père. Et je me dis, ouille. Si jamais. Alors, il n'allait pas me frapper. Hein. La plupart du temps, il n'allait même pas me punir pour ça. Mais il allait dire. Qu'est-ce que tu me déçois, mais à quoi tu joues? Ben, vous voyez, la simple pensée de la tête de mon père, ça, c'était parfois, pas toujours, hein, c'était parfois un frein. Et pour ça que j'aime beaucoup cette définition que Dieu, que Daniel Bourguet donne de la crainte de Dieu. Il dit, la crainte, c'est l'autre nom de l'amour quand il est tourné vers un plus grand que soi. Mes amis, un des problèmes des enfants aujourd'hui, c'est qu'ils ne craignent plus rien ni personne. Moi, je pense que c'est vraiment un problème. Moi, quand ma fille, c'est rare, quand je discute avec ma fille, qu'on se chamaille, etc., elle me dit parfois, oui, mais arrête, tu me fais peur. Ben, tant mieux. Moi, je suis bien content. Ça n'empêchera peut-être pas de faire des bêtises, hein. Quoique, imagine ma tête. Hein. Ça devrait la freiner, logiquement. Donc, même cette crainte de Dieu, si l'esprit ne la suscite pas, bon, hein, ça ne nous empêche pas de parfois faire des horreurs, hein, ou des bêtises. Donc chaque élément de notre nouvelle disposition doit être développé, entretenu, ça c'est sûr. Hein, mais il est et sera toujours le don de Dieu. Il sera toujours là. Donc nous ne pouvons pas nous attribuer le mérite de créer le moindre élan chaleureux vers Dieu, parce que cet élan ne peut résulter que de l'action du Saint-Esprit. Et ça concerne nos émotions, nos sentiments, etc. Mais ça, c'est pas pour la semaine prochaine, parce que c'est plus moi qui. Ce sera Pierre qui prêchera la semaine prochaine, mais ce sera pour le dimanche d'après. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.